Je disais en arrivant ce matin que c'est probablement la première fois que le prédicateur est venu à l'église en vélo, ici, à cette église, dans l'histoire de notre église. J'ignore, mais je suis venu ce matin en vélo pour revivre d'une certaine façon les expériences. C'est difficile à résoudre en peu de mots ce que j'ai vécu. Ça représente 46 jours en vélo, 54 jours de projet non incluant le temps des vols. Pour moi, c'était 60 jours incluant le temps des vols. On a fait 7800 kilomètres, puis en moyenne de 170 kilomètres par jour, 24 kilomètres à l'heure, qui veut dire qu'on était sur les vélos environ juste 325 heures. Juste. Puis nous avons brûlé environ 7000 calories par jour. Mais le plus important, c'était le fait qu'on l'a fait pour une cause. De le faire connaître l'œuvre de Global Aid Network, la façon qu'il fait le forage des puits en Afrique, spécifiquement Bénin, Togo, Éthiopie et Tanzanie. On a pu évidemment faire connaître cette œuvre un peu au travers le Canada. On a eu les 50 réunions où on a pu parler de leur œuvre. On a été apparu 5 fois à la télévision, 7 fois en radio, et il y avait plus que 10 ou 11 journaux et hebdomadaires qui nous interviewaient. Puis, comme je vous ai dit, c'est difficile de résoudre en peu de mots ce qu'on a vécu. Ça représente 6000 photos. Je vous ai démontré juste 120 ou environ 120. Mais ça m'a pris 3 semaines après mon retour de regarder tout cela et organiser tout cela, en tout cas. Puis on a pu rencontrer plus que 1000 personnes et nous avons vécu l'hospitalité des centaines de personnes. Il y avait 40 fois qu'on était soit hébergés ou ils ont fourni un endroit où on a pu guérir notre caravane qui nous a accompagnés au travers le pays. C'était leur don de soi et la générosité qui me touchait le plus. C'était difficile le lendemain parce qu'ils nous ont donné tant, juste même ouvert leur cœur à nous, que même si on était chez eux, que peut-être 12 heures et la moitié de ça, on a dormi. On était chez eux juste 12 heures et c'était difficile à dire au revoir le lendemain matin. Parce que je savais que fort probablement, je ne verrais plus ces personnes jusqu'à arriver au ciel. Mais encore plus, évidemment, je ne sais pas si tout le monde était au courant. J'étais ici, c'est moi qui ai prêché le 3 août ici, et je vous ai informé que j'avais eu un méchant accident le 17 juillet qui m'a empêché de rouler avec l'équipe pendant 17 jours. Mais j'ai pu recommencer justement ici à partir de Gatineau. J'ai fait quelques kilomètres la première journée, mais augmenté relativement rapidement. Arrivé à la rivière du Loup, j'étais capable de faire toute la journée avec l'équipe jusqu'à la fin du périple. J'espère que vous allez me pardonner ce matin parce que aussi je n'avais pas parlé le français pendant environ 8, 9 semaines, et depuis mon retour, évidemment, j'en parle, mais et aussi la semaine qu'on a passée ou le temps qu'on a passé au Québec, mais je n'ai pas utilisé mon français. Donc, j'espère que vous allez pardonner si j'ai fait quelques erreurs. L'accident, le Seigneur a utilisé cet accident dans ma vie. Justement, j'ai pu vivre beaucoup de compassion des gens. Il y avait le monsieur qui a fait demi-tour 2 fois en sa voiture parce qu'il a vu que j'étais par terre. Il est revenu pour voir s'il pouvait nous porter aide. Il y avait mon équipe, évidemment, qui m'a aidé, qui a donné, au fond, le premier soin. C'était le maire de Jackie, notre conducteur de caravane, qui a pris soin de l'équipe lorsque Jackie m'a conduit à l'hôpital, à l'urgence. Il y avait la femme qui a même, elle a vu le déchirure qui était dans mon maillot, puis elle a réparé, c'était entre 11h et minuit le soir, après l'avoir lavé, qu'elle a remarqué que c'était déchiré, et elle a toute seule mis une patch, et même elle a utilisé une forme de bicyclette pour le soude. Puis, Donc, le Seigneur m'a manifesté beaucoup sa compassion. Mais je savais que le Seigneur voulait m'enseigner encore plus au travers de ce qui est arrivé. Et justement, ce matin, le sujet de mon message vient de ce qu'il m'a partagé ou ce qu'il m'a révélé. Lorsque j'étais à Fredericton, juste une semaine après le temps que j'ai passé avec vous au début du mois d'août, le 10 août, on était à Fredericton, Nouveau-Brunswick. Et lors de la prêche, qui était au fond le même sujet, je donne un message un peu différent, mais c'était au fond le même sujet et le même passage, le Seigneur l'a utilisé pour toucher mon cœur profondément. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste prier. Et je vais demander à quelqu'un de m'apporter l'eau un peu, si quelqu'un peut faire ça. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs qui sont ici ce matin. Et tu les aimes avec un amour infini. Au fond, Seigneur, je sais que moi, je ne peux rien faire pour changer leur cœur, pour toucher leur vie. C'est toi et ton esprit qui doit le faire. Merci, Seigneur, pour comment tu vas nous parler au travers de ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Qu'as-tu dans la main? Oups, je dois juste réaliser, j'ai aussi... c'est une question que Dieu a posée à Moïse lorsqu'il l'a appelé de faire sortir son peuple, les Israélites, de l'esclavage en Égypte. Je ne sais pas si vous savez, c'est une histoire qui s'est déroulée, mais maintenant, ça fait plus que 3600 ans depuis ce temps-là. Puis les Israélites étaient en Égypte pour 400 ans, pas nécessairement toujours en esclavage. Au début, ils n'étaient pas en esclavage. La Bible ne dit pas pour combien longtemps ils étaient vraiment esclaves. Peu importe la longueur du temps, on sait que personne n'est esclave d'une autre personne. Puis lorsque Dieu a appelé Moïse comme pour être sa porte-parole auprès de Pharaon pour délivrer son peuple, Moïse avait 5 objections. Puis cette question fait partie de la réponse de Dieu à sa 3e objection. Et avant d'en parler plus de ça, j'aimerais vous juste donner un petit résumé de ces 5 objections, comme je vous ai dit, j'aurai des difficultés. Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? C'était sa première objection. Il considérait probablement la petitesse de sa position et relative à celle de Pharaon, même s'il était éduqué en Égypte. Lui, il n'était pas Pharaon, il était berger maintenant pendant 40 ans. Il était berger pendant 40 ans. Puis il regardait son infériorité au niveau humain à cet homme. Et Dieu répond, « Je serai avec toi. » Sa 2e objection, il dit, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. » Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Moïse considérait probablement que les Israélites non plus n'auront pas cru à ce message. Puis Dieu répond en proclamant son nom, « Je suis celui qui est. Voici ce que tu dirais aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Mais il avait une 3e objection, et s'il ne me croit pas, il ne m'écoute pas. S'ils me disent « L'Éternel n'était pas apparu », évidemment, il a juste de prononcer le nom de l'Éternel n'aura pas nécessairement convaincu que les Israélites laissaient être leur porte-parole auprès de Pharaon. Puis Dieu répond en lui donnant un signe, un miracle, en utilisant sa bâton. Et c'était cette question qui précède ce miracle « Qu'as-tu dans la main ?» Mais il avait une 4e objection. « Ah, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. J'ai la bouche et la langue embarrassée. » Évidemment, il n'avait pas de problème de parler avec au Seigneur et de répondre au Seigneur, mais il considérait encore sa petitesse et regardait vers soi plutôt que vers l'Éternel. Et Dieu répond, « Qui a doté l'homme d'une bouche? N'est-ce pas moi, l'Éternel? » Et finalement, il a une 5e objection. En fin de compte, c'était l'objection réelle. Il dit, « Non, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudrais pour cela. » Il ne voulait pas vraiment aller. Et il était en fin de compte honnête avec Dieu. Puis, évidemment, le Seigneur n'a pas changé son avis, n'a pas changé sa volonté. Puis, il répond, « Il y a ton frère, Aaron, le Lévite, je vous assisterai tous deux dans ce que vous irez. » Et il les a envoyés tous les deux. En fin de compte, évidemment, Moïse a accepté d'y aller. Mais Dieu n'a pas choisi Moïse à cause de ses capacités. Dieu voulait simplement sa disponibilité. Dieu donnait à Moïse, c'était à Dieu de lui donner les capacités dont il en avait besoin. En plus, Dieu n'a pas demandé à Moïse à chercher quelque chose d'autre qu'il n'en avait pas. Il a choisi d'utiliser tout simplement ce que Moïse avait dans la main. La seule chose qu'il demandait de Moïse, c'est de lui donner ce qu'il avait dans la main. Et lorsqu'on est jeune, ou même plus vieux, nous avons une tendance à dire au Seigneur, « Je te servirai quand? Je te servirai quand j'aurai fini mes études? » Ou « Quand j'aurai fini mes études de séminaire? » Ou « Quand j'aurai trouvé un emploi? » Ou « Quand mon carrière roule bien? » Ou « Quand les enfants seront à l'école? » Ou « Quand j'aurai terminé ce projet? » Je te servirai quand? Il y a au moins deux problèmes avec ce type de réponse au Seigneur. D'abord, nous avons une définition trop étroite de ce que ça veut dire servir. Nous oublions que le Seigneur nous a enseigné. Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nœud et t'avons-nous vêtu? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Donc, chaque fois que nous servirons nos enfants, notre mari, notre femme, un ami, un voisin, un collègue au travail, n'importe qui, quelqu'un, chaque fois que nous le servons, c'est le Seigneur que nous servons. Et lorsque nous faisons notre travail avec assiduité, avec honnêteté, avec notre force, on est en train de servir le Seigneur. Il utilise même nos heures de travail pour le glorifier, la façon que nous le faisons. Donc, nous avons une définition un peu trop étroite de ce que ça veut dire servir le Seigneur. Mais il y a un deuxième problème avec cette optique, et c'est ça que je vais adresser ce matin, cette optique, je te servirai quand. Nous pensons qu'il faut accueillir quelque chose avant de servir le Seigneur. Qu'il nous manque quelque chose avant qu'on puisse le servir. Lorsque je me suis joint à l'équipe de Campus pour Christ, je me suis joint à un ministère qui était auprès des étudiants étrangers. Ils m'ont envoyé à Edmonton, à l'Université d'Alberta, là où il y avait un homme qui travaillait déjà dans ce ministère. Et il était pour être mon formateur, pour me former dans le ministère. 4 mois plus tard, après mon arrivée, parce que ça m'a pris un peu de temps de rechercher ou ramasser une équipe de soutien financier, puis, 4 mois plus tard, parce que je suis arrivé le mois janvier, ce gars a décidé de quitter le ministère de Campus pour Christ. Et j'étais un peu découragé, j'étais un peu déconcerté parce que je voulais qu'il continue de me former, donner une formation. En fin de compte, je dois avouer que je suis devenu un peu charnel parce que je voulais que mes directeurs change l'endroit, justement, pour que je puisse avoir un autre formateur, mais ils m'ont laissé là où j'étais déjà posté. Puis, j'étais charnel pour au moins une période de quelques mois, mais le Seigneur a utilisé une prêche que j'avais entendue, basée sur 1 Corinthiens 3:5. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Même l'apôtre Paul ne cherchait pas auprès de lui-même la capacité d'avoir un ministère. Il savait qu'il avait besoin de dépendre du Seigneur. Donc, le Seigneur m'a dit, Robert, ne regarde pas auprès de toi ou ni auprès des hommes alentour de toi pour tes capacités ou les capacités dont tu as besoin pour me servir. Regarde à moi. Tournez tes yeux vers moi. C'est Dieu qui nous donne la capacité, le vouloir, le pouvoir et le faire. Il cherche juste notre disponibilité. Donc, nous retournons au titre de mon message, « Qu'as-tu dans la main ?» Comme berger, Moïse n'avait pas grand-chose. Il portait les vêtements sur le dos, peut-être un changement de vêtements, une sac probablement pour la nourriture lorsqu'il était à la campagne, et son bâton pour aider avec paître les troupeaux. Donc, il n'avait pas grand-chose. Puis Dieu a simplement lui demandé d'utiliser son bâton. Il a dit, jetez-le par terre, puis il a changé un serpent. C'était le premier miracle que le Seigneur a fait avec ce bâton. Mais ce simple bâton, dans la main de Dieu, a fait des grandes choses. Voici une courte liste. Étendu sur les eaux d'Égypte, le bâton a changé les eaux en sang. Frappant la poussière devant Pharaon, la poussière se transformant en poux. Étendu vers le ciel, les grêles et le feu foudroyaient la terre. Étendu sur le pays d'Égypte, les sauterelles montaient sur tout le pays, sauf où demeuraient les Hébreux. Étendu de nouveau vers le ciel, les ténèbres couvraient le pays. Étendu vers la mer s'est refoulée, frappant le rocher, l'eau jaillissait. Le bâton entre les mains de Dieu a opéré des grands miracles, les miracles extraordinaires, les miracles qu'on raconte jusqu'à aujourd'hui. Donc, Dieu nous demande tout simplement de lui donner ce que nous avons dans notre main. Peut-être que nous n'avons que peu de temps. Et même ce matin, lorsque Alex dirigeait le temps de louange, il a parlé du fait de donner tout au Seigneur. Merci Seigneur, merci Alex pour ce temps de louange parce que ça s'accorde très bien avec le sujet de mon message ce matin. Mais donnons ce peu de temps au Seigneur. Nous n'avons pas peut-être beaucoup d'argent, mais donnons de cet argent au Seigneur. Nous sommes une jeune croyante à peine de connaître peut-être le Seigneur et tu as peur peut-être, ben pas nécessairement peur, mais tu ne sais pas quoi dire aux autres, à vos amis, vos connaissances, les membres de votre famille, mais partageant ce que vous connaissez, le Seigneur va en multiplier. Vous avez un talent, quoi que ce soit, un talent de jouer la musique ou la menuiserie ou cuisinier, utilisons ce talent pour servir notre Seigneur. Mais Jésus a aussi enseigné ce principe de donner de ce que nous avons dans la main à ses disciples. Puis, quand Jésus descendit, on va lire le texte, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Alors, il fut pris de pitié pour elle et guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Cet endroit est désert et il se fait tard. Vous renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais lui répondra-t-il, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. » Il ordonnera à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il rompit les pains, et en donnant les morceaux aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tout le monde mangeait à satiété. On ramassait les morceaux qui restaient, on en remplit 12 paniers. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Regardons bien comment cette histoire se déroule. Jésus a pris plusieurs heures pour guérir, pour soigner les malades. On ne sait pas combien d'heures, est-ce que c'était toute la journée, est-ce que c'était 8 heures, mais je ne sais pas si vous avez pris une journée complète ou 8 ou plus d'heures de tenter de rencontrer personne après personne après personne après personne. Moi, j'aurais trouvé ça extrêmement fatigant. Et c'est ça que Jésus a fait. Et les disciples étaient auprès de lui. Probablement, ils s'impliquaient à amener les gens peut-être vers le Seigneur, à aider à diriger la foule. Génial, comment ça se passait? Et le texte ne dit pas non plus. Mais j'imagine, après, rendu à le soir, après 6 heures, 7 heures, les gens étaient fatigués. Et en plus, peu de monde a pu manger. Il n'y avait pas beaucoup de monde parce que c'était une foule qui a décidé de suivre le Seigneur là où ils ont entendu dire qu'il était pour être lorsqu'il traversait en bac. Donc, la foule le suivait probablement en hâte. Ils n'ont probablement pas apporté grand-chose de leur maison. Ils n'avaient pas mangé. À mon avis, les disciples ont fait bien d'avoir au moins observé que la foule avait ce besoin, qu'il manquait de nourriture. Et ils ont même pris l'initiative de s'approcher de Jésus pour lui en parler, et ils ont même suggéré une solution. Renvoie la foule pour que les gens aillent chercher de quoi manger. Donc, à mon avis, ils ont fait très bien. Ils avaient au moins une certaine compassion pour la foule. Ils étaient en train d'apprendre la compassion de notre Seigneur. Mais Jésus, sachant ce qu'il fera, avait une autre idée. Une autre suggestion, et il les suggère qu'ils donnent eux-mêmes à manger. J'imagine les disciples ont gratté la tête un petit peu, là, puis se regardaient, comment on va faire ça, là? Peut-être ils ont commencé à fouiller dans leur sac s'ils avaient un peu de choses, puis tout en sachant justement qu'ils n'auraient pas trouvé grand-chose pour une foule de 5 000 hommes, et ça dit, sans compter les femmes et les enfants, moi je dirais facilement, il y avait peut-être 20 000 personnes là. Puis les petites quantités de pain et de poisson qu'ils ont retrouvées ne serviraient à rien pour une si grande foule. Donc, c'est ça qu'ils ont trouvé, 5 pains et 2 poissons. Pas grand-chose. Mais Jésus leur demande, donne-moi, apportez-les-moi. Puis, je me demandais s'ils hésitaient. Cependant, je ne pense pas. Parce que ce n'était pas le début du ministère de Jésus. Ils commençaient à connaître Jésus. Justement, comme nous avons chanté, ils ont réalisé qu'ils n'avaient rien. Jésus avait la parole de la vie éternelle. Puis, ils ont vu des miracles. Et ils commençaient à croire vraiment que Jésus est le Messie, celui qui accomplissait les prophéties que Dieu a prononcées des centaines d'années avant. Donc, dans leur cœur, cet amour grandissant du Seigneur, cette connaissance du Seigneur grandissant, leur a probablement poussé de simplement donner ce qu'ils avaient dans la main, en pensant que ça ne va rien faire. En plus, à quoi ça sert de garder ce petit peu, comme ça ne peut pas servir à grand-chose. Donc, ils l'ont donné au Seigneur. Peut-être qu'ils pensaient même, le Seigneur veut manger. Le Seigneur peut au moins manger. Puis, que fait Jésus? Il les prend, il les bénit, il les rompt, il donne les morceaux rompus aux disciples pour en distribuer, et plus d'environ 20 000 personnes ont été bénies. 20 000 personnes ont pu manger. À cause du fait que le petit peu que les disciples avaient dans la main, entre les mains de Jésus, s'est multiplié. Et lorsque j'ai réentendu cette histoire, parce que vous savez, évidemment, ça fait longtemps que je suis le Seigneur, et j'avais déjà lu l'Évangile de Matthieu à maintes reprises. Puis j'avais lu cette histoire plusieurs fois en plus. Mais le Seigneur m'a touché de nouveau mon cœur au travers de cette histoire. Il a dit à moi, « Tu te demandes pourquoi je t'ai laissé avoir un accident? Pourquoi j'ai brisé ton rêve de traverser tout le Canada en vélo? Il y a 2 ans, je t'ai demandé, maintenant, c'était la conversation que j'ai eue dans ma tête avec le Seigneur, et le Seigneur était en train de me dire, « Il y a 2 ans, je t'ai demandé, je t'ai demandé ce que tu avais dans la main. Et pour moi, une des choses que j'avais dans la main, c'était un amour pour faire le vélo et un rêve que j'avais même pour quelques décennies, de traverser le Canada en vélo. Puis, le moment même, il y a 2 ans, lorsque je me suis approché d'un de mes collègues, Mike, pour lui poser la question, « Mike, est-ce que je peux t'intéresser à faire la traverse du Canada en vélo avec moi? » Parce que lui, il avait commencé à faire les triathlons. Et donc, je savais qu'il faisait la course, le vélo et la natation. Donc, je savais qu'il était en train de faire le vélo. Puis, il ne m'a pas donné une réponse tout de suite. Mais ce qu'elle a dit, c'était, « Robert, je ne te donnerai pas une réponse tout de suite, mais si on le fait, on doit le faire pour une cause. » Et c'était au fond de moi-même que Jésus était en train de me dire, « Robert, donne ce que tu as dans la main. Au lieu de le faire pour soi, fais-le pour moi. » Puis tout de suite dans mon cœur, je savais que je devais faire ça, que je ne pouvais pas faire cette périple étendue pour moi-même. Et dans mon cœur, j'ai dit, « Oui, Seigneur, on va le faire pour une cause. » Puis, donc, le Seigneur a pris mon amour de vélo et mon rêve et il a transformé en autre projet, un projet pour aider le monde, ou les gens qui n'ont pas l'eau salubre pour boire. Donc, et il a béni. Il a commencé à bénir ce projet. Il a donné à Mike à cœur, évidemment, de faire le 3 mois plus tard. Mike m'est revenu et il a dit, j'accepte. Donc, j'avais vraiment un coéquipier par excellence parce que je savais que Mike était un très grand, il est très bon dans l'organisation. Puis, et il est aussi un homme de vision. Puis, il a dirigé aussi, il nous a dirigé vers la cause, justement, Global Aid Network, GAIN, qui fait le forage des puits. Il a dirigé d'autres personnes à se joindre à l'équipe de cyclistes. En fin de compte, on était 4 cyclistes et 1 conducteur de caravane. Il a dirigé les commanditaires, non seulement donné la caravane et même payé pour la couverture, ce qu'on appelle le wrap autour de caravane, mais pour tous nos frais. Justement, à chaque fois que quelqu'un nous hébergeait, ça relâchait les fonds parce qu'on avait calculé un certain budget. Et chaque fois que quelqu'un nous a hébergé, ça donnait les fonds, tournait les fonds vers les puits pour les gens parce que tous nos frais étaient couverts. Il a motivé le personnel de GAIN de vraiment travailler. Et il y avait 2 personnes en particulier qui, une a pris du temps pour contacter des églises à chaque ville où on était pour passer la nuit. Il a pris du temps, et ça lui a pris des mois, pour contacter les églises au travers le pays, par téléphone, par courriel, pour tenter d'organiser des réunions pour nous. Et une autre personne faisait des contacts avec les médias. Donc, il a ajouté à notre équipe. Donc, il était encore en train de bénir. Il a inspiré des gens, comme je vous ai dit, vous a mentionné, dans plus de 40 villes pour nous faire la halte et pour nous donner à manger. C'est lui qui a donné la force et la santé et le fer de traverser le pays du Canada en vélo. Parce que, oui, je sais que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui a formé nos corps. Donc, si nous avons de quoi que ce soit comme capacité physique, ça vient de lui. Il nous a fait vivre des expériences extraordinaires. Il nous a introduit aux gens merveilleux au travers tout le pays. Donc, il a transformé mon rêve, tout simplement, de traverser le Canada à une autre vision complètement beaucoup plus large que la mienne. Puis, pour une raison quelconque, Dieu a aussi décidé de rompre mon rêve. En fin de compte, je ne peux pas vous dire que j'ai fait la traverse du Canada en vélo. J'ai fait juste 2/3, environ 5000 kilomètres. L'équipe, merci Seigneur, a réussi à faire le 7800. J'étais le seul qui avait un si grand accident qui m'a empêché pour rouler pour 17 jours avec l'équipe. Et je ne comprends pas vraiment les pourquoi. J'ai certaines idées, mais c'est seulement le Seigneur, dans sa sagesse et sa volonté, qu'il connaît toutes les raisons pour lesquelles il a permis. Mais j'ai vu que lorsqu'il a pris les pains, les 5 pains et les 2 poissons, il les a rompus. Et c'était 7 éléments de l'histoire que le Seigneur a utilisé. Il a dit, Robert, je devais rompre ton rêve. Puis, après avoir réalisé ce que je viens de vous partager, j'ai même pleuré, honnêtement parlant. J'ai même quasiment les larmes aux yeux maintenant. Parce que avant d'entendre cela, je n'étais pas capable de remercier le Seigneur pour l'accident. Oui, je l'avais remercié pour les personnes qui m'ont démontré la compassion. Oui, je l'avais remercié pour le fait que je n'avais pas cassé un os. Parce que si j'avais cassé un os, c'était certain que je n'aurais pas pu rejoindre l'équipe pour même une autre partie du périple. J'ai remercié le Seigneur pour les personnes qui m'ont aidé. Et j'ai remercié aussi le Seigneur pour la force qu'il m'a donnée de faire partie de l'équipe malgré les douleurs, les blessures, qui au début étaient pas mal douloureux. Et même 3 jours plus tard, je devais prêcher dans une église et j'ai prêché, mais j'étais assis parce que je ne pouvais pas me mettre debout à peur de m'évanouir parce que j'avais quasiment évanoui 3 fois le matin avant ça. Je n'ai pas m'évanoui, mais j'ai quasiment m'évanoui 3 fois. Donc, je devais donner le prêche. Mais le Seigneur m'a donné la force et la capacité de le faire. Donc, j'avais dit merci au Seigneur après l'accident pour toutes ces choses, mais pas pour l'accident même. Mais honnêtement, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si c'était ta volonté de rompre mon rêve, merci. Merci. Parce que tu savais ce que toi, tu voulais faire. Puis, le Seigneur continue à me parler dans mon cœur. Il dit, maintenant tu verras ce que je vais faire avec ce que tu as fait. Tu vas voir combien les gens seront bénis. Oups. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Puis Paul a dit, rendez grâce en toutes choses. Je savais que j'avais besoin de remercier le Seigneur. Puis le Seigneur a permis que, et c'est ça maintenant qu'il y a un certain compte rendu au niveau du projet, on a pu ramasser, déjà soit payé, ou promis, il y a encore les gens qui ont promis, la totalité de l'argent n'est pas complètement rentré, mais il a permis qu'on a ramassé environ 250 000 $ pour pouvoir 30 puits. Ça veut dire que 30 villages, environ 30 000 hommes, femmes et enfants auront de l'eau saine. Et leurs communautés seront transformées. Le Seigneur a dit, j'en avais soif et vous m'avez donné à boire. Et c'est ça que le Seigneur a permis. C'est pas juste moi, évidemment, c'est vous, parce que vous êtes impliqués dans le ramasser des fonds. C'est tout le monde qui a donné au travers le pays du Canada et mon équipe, évidemment, que le Seigneur a utilisé. Donc, il nous dit, vous m'avez donné à boire. Merci. Donc, et nous avons servi le Seigneur de cette façon-là. Mais beaucoup plus que ça, parce que Gain fait partie il travaille de partenariat avec le Jesus Film Church Planting Strategy, puis ils n'ont jamais traduit le nom en français, donc je n'ai pas tenté de traduire le nom, mais c'était une partie de pouvoir de changer l'organisation avec laquelle je travaille, qui justement, là où après qu'ils ont fait le forage des puits, ils travaillent avec une église locale qui devient l'église mère. Ils aident ces personnes, une équipe de 5, 6, 7 personnes, d'être formés pour qu'ils puissent non seulement démontrer le film Jésus, mais faire le suivi des gens, non seulement pour quelques semaines, mais pour des mois. Pour qu'ils fassent non seulement démontrer, faire visionner le film Jésus, mais faire le suivi des nouveaux-nés en Christ et aider avec l'implantation d'une église. Cette église mère aide avec l'implantation de cette église et au fur et à mesure, quelques années plus tard, ou une année ou plus que plus tard, cette petite église, cette noyau, est aussi encouragée d'aider une autre église là, ou aider une autre ville là où ils ont fait le forage d'un puits. Donc, c'est aussi une stratégie de multiplication. Puis, donc, selon les statistiques, c'est parmi ces 30 000 personnes, 5 à 6000 personnes verront le film Jésus, plus que 600 ouvriront leur cœur au Seigneur et 10 églises seront implantées. Ils ont un taux de réussite de 1 sur 3 des villes où ils font de forage, une église se forme et est implantée. Et ça, c'est même une photo d'une des églises qui a été implantée au Tanzanie. Donc, le Seigneur me dit, « Robert, j'ai pris ce que tu avais dans la main, ton amour pour le vélo et ton rêve. Je l'ai béni, je l'ai rompu et je donne en multiple aux milliers de personnes. » Donc, je devais remercier le Seigneur. Qu'avez-vous dans la main? Qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu donné au Seigneur? Et qu'a-t-il fait avec? Nous avons tous des attentes, des rêves. Nous anticipons toujours que les choses vont tourner en bien. Mais c'est assez rare que toutes... C'est jamais que toutes nos attentes se réalisent, que tous nos rêves se réalisent. Il y a toujours des épreuves, des difficultés qui arrivent. Et tout est entre les mains de Dieu. Donc, peut-être l'homme ou la femme de tes rêves, la personne que tu as mariée, n'est pas exactement si bon que vous avez anticipé. Ou ta vie de couple, ton mariage ne se tourne pas exactement comme vous avez pensé. Peut-être vous passez par les moments difficiles même. Peut-être tes enfants n'obéissent pas comme il faut ou comme vous voulez. Ou si vous avez des enfants plus âgés, peut-être ils ne suivent pas le Seigneur comme tu pries. Peut-être ton carrière ne suit pas le trajet que tu anticipais. La recherche d'emploi ne va pas si bien que vous avez anticipé. Ou peut-être tu es dans un emploi que tu n'aimes pas autant que ça. Peut-être ce n'était pas ce que tu as préféré, ce n'est pas ce que tu as anticipé, ce n'est pas ce que tu as planifié. Ou peut-être à votre emploi, il y a des difficultés avec votre boss ou d'autres collègues du travail. C'est un projet qui a des difficultés, qui se bloque. Ou peut-être vous avez des difficultés financières, un budget qui est difficile à serrer. Ça n'arrive pas à peut-être acheter des choses, soit que tu en avais même peut-être besoin ou que tu souhaites avoir. Tes prières, tes rêves, les choses n'arrivent pas comme vous planifiez, comme vous souhaitez. Mais faites-vous confiance au Seigneur pour comment ces choses tournent? Est-ce que vous les avez vraiment laissées entre les mains du Seigneur? C'est ça qu'il nous demande. Et comme même Alex a mentionné ce matin, donne ce que tu as. Donne ce que tu as. Et donne tout au Seigneur. Qu'as-tu dans la main? Les tiens-tu avec une main ouverte ou avec une main serrée? Dans mon cas, je savais que d'une certaine façon, je tenais mon rêve de vélo avec une main serrée. Même au début du trajet, lorsqu'il y avait peut-être un conflit entre peut-être il faut qu'on arrête un petit peu plus tôt pour qu'on puisse arriver à une réunion assez à l'heure. Peut-être on va manquer quelques kilomètres, mais moi, je ne voulais rien manquer. Je voulais faire tous les kilomètres. Mais lorsque le Seigneur a rompu mon rêve, évidemment, c'était plus une question. J'étais prêt comme de donner tout pour l'œuvre, tout pour la cause. Oui, je voulais faire le vélo. Oui, je souhaitais continuer. Et j'ai réussi à le faire. Mais ce qui était plus important pour moi, ce qui est devenu plus important, c'était justement la cause. Donc, le Seigneur avait besoin de tirer ouvert ma main. Et je savais que c'était drôle parce que même avant de partir, j'avais eu une rencontre avec une collègue de travail. Puis je leur ai dit, je sais que je dois tenir mon rêve avec une main ouverte. Mais je ne savais pas en réalité combien je le tenais avec une main serrée. Le Seigneur devait me démontrer justement combien je le tenais avec une main serrée. Et c'est lui qui a ouvert ma main. Donc, donne au Seigneur ce que vous avez dans la main. Ton mariage, tes enfants, ta famille, ton travail, tes plans, tes rêves, tes attentes. Le Seigneur nous dit, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie le perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde le gardera pour la vie éternelle. Lorsque tu lâches et tu donnes au Seigneur ce que tu as dans la main, tu verras combien il bénira ce que tu lui en donnes. Et le corps de notre Seigneur Jésus devait être brisé, rompu, pour la plus grande bénédiction que le monde a jamais vue et que l'histoire a jamais connue. C'était justement, il a fait pour nous donner la vie éternelle, qui veut dire connaître le Seigneur pour l'éternité. On va passer l'éternité avec Dieu à cause du fait que le Seigneur Jésus n'a pas tenu à sa propre vie. Il nous a ouvert sa main, puis c'était béni par le Seigneur, et son corps était rompu pour nous. Donc, parfois, le Seigneur doit rompre ce que vous lui donnez. Parfois, il ne fait pas. Parfois, vos rêves réalisent, vos attentes arrivent. Mais assez souvent, il le change, il transforme, il le rompt. Puis, par rapport à votre implication, jusqu'à date, on a ramassé, incluant ceux qui étaient donnés en ligne, parce qu'il y en a qui étaient donnés ici. Il y avait des personnes qui ont donné en ligne, selon ce que je cherche, et je l'avais regardé, la liste des personnes qui ont donné. Donc, on a réussi à donner 5 160 $, qui veut dire qu'on donne l'eau pour la vie pour 607 personnes. Il y aura 607 personnes au minimum qui auront, plus de 600 personnes qui auront l'eau, pas juste pour quelques années, mais pour des décennies, à cause de vos dons. Donc, moi, je vous remercie beaucoup parce que vous vous êtes impliqués avec moi dans ce rêve pour aider. Et si ça vous intéresse, si vous n'avez pas encore donné, ou si peut-être vous voulez donner une deuxième fois, vous avez déjà donné, mais vous voulez donner peut-être une deuxième fois, j'ignore si on va arriver jusqu'à 8 500 $. Ça, c'est un autre rêve que j'avais, que l'Église, notre Église, puisse pariner tout un puits. Mais c'est entre les mains du Seigneur, en réalité. Si vous voulez en donner, il reste au moins une autre semaine, vous pouvez en donner la semaine prochaine. Mais moi, je vous remercie de fond de mon cœur parce que vous avez participé avec moi. Oui, vous n'avez pas fait le périple avec moi, mais par vos dons, par votre générosité, non seulement est-ce que les personnes auront la vie, l'eau pour l'eau physique, mais il y aura une équipe qui va présenter le Seigneur Jésus à ces personnes. Il y aura des personnes au ciel à cause du fait que vous avez donné. Donc, moi, je vous remercie et merci, Seigneur.